C'est bien parce qu'il est fidèle. C'est bien parce qu'il est amour. Qui d'entre vous aspire à un monde plus juste? J'espère avoir toutes les mains levées. Qui aspire à ce qu'il y ait moins de violence? Là aussi, toutes les mains levées, à moins que quelqu'un ne lise jamais les nouvelles. Et qui d'entre vous souhaite être actrice ou acteur de cette justice? Ouais, plus ou moins le même nombre, je sais pas trop, peut-être un peu moins. Il y en a qui hésitent. C'est avec ces questions que nous allons poursuivre notre réflexion ensemble sur le Sermon sur la montagne. C'est une série que nous avons commencée depuis le début de l'année. Et voilà, nous cheminons tout au long de cette année avec ce discours magistral de Jésus, de réflexion dans ce message-là, où Jésus va nous expliquer ce que ça implique de marcher à sa suite. Quand on suit Jésus, qu'est-ce que ça implique? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier message de la série, si vous étiez là. J'avais proposé que Jésus nous invitait à une randonnée bivouac. Même si vous n'étiez pas là, c'est pas grave, vous pouvez raccrocher les wagons. Quand on fait une randonnée bivouac, il faut partir avec le bon bagage. Alors pour une rando bivouac, quel est le bagage le plus approprié? Un sac à dos. Et je remercie Joël qui me prête son sac à dos. J'étais sûr que je l'avais au bureau, le mien, mais je ne l'ai pas. Jésus nous propose de le suivre avec un sac à dos. Et bien souvent, nous avons tendance à prendre avec nous une valise à roulettes. Quelle couleur? Waouh! On la retrouve. Jésus nous invite à une rando bivouac. Et bien souvent, nous avons tendance à prendre une valise avec nous pour le suivre. Jésus, je veux marcher à ta suite. Attends-moi un petit peu, s'il te plaît. Alors, quand on parle de justice, on peut regarder ce qu'il y a dans notre valise. Qui aimerait regarder ce qu'il y a dans la valise? Ouais? Ouais, tu peux venir. Parce que des fois, alors on aspire à de la justice, on aspire à moins de violence. Mais quand on suit Jésus, bah on a ce bagage-là. Tu peux le peser, ça va pour toi, je ne pense pas que c'est très lourd. Un peu quand même. On peut l'ouvrir ensemble. Puis on va regarder comment est-ce qu'on applique la justice. Voilà, est-ce que tu veux nous dire ce qu'il y a dedans? Enfin, voilà, pas besoin de dire les titres de livres. Mais juste ce qui est écrit dessus.
Mauvaise pensée.
Ok, voilà, une manière de faire la justice, selon nous. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Mort.
La mort. Il est gros celui-là, ouais.
La violence.
La violence.
La vengeance.
La vengeance.
Les insultes.
Les insultes.
Puis la haine.
La haine. Et voilà, tu as eu 10 secondes de sport offertes. On va laisser comme ça. Donc quand on veut de la justice, des fois on arrive avec notre bagage, avec tout ça dedans. Et puis Jésus nous invite à prendre ce sac à dos. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à dos? Il y a des Playmobil, dit la maman de Joël.
Il y a Jésus en Playmobil dedans.
Qui aimerait regarder dans cette petite poche? Premier rang, quelqu'un? Josiane, qu'est-ce qui est marqué dans cette petite poche? Ouais. Le texte du jour, certainement j'ai oublié un mot. Voilà. Alors lisons le texte du jour. Matthieu 5, versets 38 à 42, où Jésus nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Je répète ma question. Qui d'entre vous veut être actrice ou acteur de cette justice? Waouh! Alors on peut directement enchaîner avec l'autre texte qui dit « Aimez vos ennemis ». Ou on s'arrête un moment sur celui-là. Moi, celui-là, il me convient déjà bien, je trouve assez défiant. Jésus dit « œil pour œil, dent pour dent ». Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Moi, j'aurais aimé qu'il s'arrête là. Ça m'aurait pas dérangé qu'il s'arrête là. C'est bon, c'est plus simple, c'est clair, ça me convient bien. Jésus ici cite la loi du talion, une loi que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui avait donné cette loi au peuple d'Israël. Et cette loi avait pour but de cadrer la vengeance. Parce que quand on regarde dans la Genèse chapitre 4, on voit que Caïn, si quelqu'un tue Caïn, il va être vengé jusqu'à 7 fois. Et si quelqu'un tue Lémèque, il va être vengé jusqu'à 77 fois. Alors la loi du talion est quand même pas si mal, parce qu'une vie pour une vie. Hein, quand il y a quelqu'un qui tue quelqu'un, on évite de tuer tout le clan. Mais une vie pour une vie. Donc, dans la progression biblique, la loi du talion était déjà un progrès. C'était une bonne loi qui donnait un cadre à la vengeance. Jésus n'abolit pas cette loi, mais il l'accomplit dans ses moindres détails. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis que il faut résister aux méchants. Et Jésus va donner 3 exemples de comment résister aux méchants. La gifle sur la joue droite, donner jusqu'à son manteau, faire un deuxième mille. Kilomètre, voilà. D'abord, qu'est-ce que ce texte ne nous dit pas? Nous avons là 3 exemples assez énigmatiques, qui ont fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de l'Église sur la manière de les interpréter. Et parfois, ils ont été mal interprétés, avec des dégâts considérables dans la vie d'hommes et de femmes. Ces textes ont souvent été réduits pour enseigner la passivité qu'un chrétien doit montrer face au mal, à y voir simplement une invitation à être gentil envers ses agresseurs, bref, un disciple qui encaisse tout sans ne rien dire. Alors ce matin, alors qu'on s'approche de ces textes, c'est avec prudence et humilité que nous voulons avancer. Ce matin, nous interprétons des textes qui sont difficiles et peut-être douloureux. Ce n'est pas facile d'entendre qu'il faut tendre l'autre joue. Quand j'aborde ces textes, je suis conscient qu'il y a des personnes peut-être en face de moi qui ont vécu un abus, des injustices profondes, du rejet. Et qu'entendre « il faut tendre l'autre joue », c'est extrêmement compliqué. Alors posons un cadre ce matin. Quand on va interpréter ces trois exemples, il n'est nullement question de cautionner le mal ou qu'un chrétien doive en redemander encore. Loin de là. Au contraire, ces 3 exemples nous montrent une manière de mettre en lumière le mal et la méchanceté. Jésus nous demande ici de dénoncer le mal. Quand il nous demande de tendre l'autre joue, ce n'est pas prendre plaisir à subir une injustice. Si ça vous intéresse, je vous explique volontiers ce passage. Ouais, mais il me faudrait un volontaire. Thierry, alors là, je vais me faire plaisir. Un conseiller pastoral. Bon, après, il y a des répercussions qui peuvent avoir lieu. Premier, il y a un verre d'eau. On ne le touche pas. Si je veux gifler Thierry sur la joue droite, je dois utiliser j'utilise souvent, les gens sont droitiers, j'utilise ma main droite. Donc si je veux le gifler sur la joue droite, je dois faire avec le revers de la main. Je vais aller doucement, hein. Ouais. Ok, voyez bien l'image. Quand on gifle quelqu'un avec le revers de la main, c'est un signe de mépris. C'est que je considère Thierry comme quelqu'un d'inférieur à moi. Thierry n'est pas humain. Je peux le traiter comme je veux. Alors si je fais ça, Thierry, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me tendre l'autre joue. Mais il ne va pas le faire pour se faire frapper encore plus. C'est qu'il va me mettre face à moi et me dire, mais mon gars, la personne que tu as en face de moi, je suis un être humain. Je suis ton égal. Ce que tu fais, c'est mal. Mais si tu veux frapper, alors vas-y. Mais fais-le comme un être humain, comme à ton égal. Ça va, vous avez compris? Tu peux te rasseoir, je pense, c'est bon. C'est allé? Lui tendre l'autre joue, c'est finalement confronter notre agresseur au fait que nous sommes un être humain comme lui. Nous n'avons pas moins de valeur. S'il veut frapper la bonne joue, il va devoir le faire avec le plat de la main. Il va devoir y aller franchement. En faisant ça, en tendant l'autre joue, on lui demande de le reconnaître comme son égal. Il doit être confronté au fait que s'il frappe, il frappe un être humain. Même chose avec le kilomètre en plus. La loi romaine autorisait les soldats romains à réquisitionner des gens pour les accompagner sur un kilomètre. Ça, c'était autorisé, c'était légal. Jésus nous dit, mais si quelqu'un te demande de le faire, fais-en deux avec lui. S'il dit ça, c'est pas simplement pour que l'autre se laisse faire. Si Jésus dit ça, c'est que la loi, elle interdisait justement de faire plus qu'un mille, un kilomètre. Donc, faire 2 kilomètres avec le soldat, c'était le placer dans une position extrêmement difficile, très inconfortable vis-à-vis de la loi. Tu veux abuser de moi en demandant 1 kilomètre? Ben, je vais en faire 2 avec toi. Comme ça, tu vois l'absurdité de ta demande. Et tu vois que tu peux t'exposer aussi à des sanctions. Ben, si un soldat demandait plus, il s'exposait aussi à la loi romaine et au tribunal. Donc l'idée, ce n'est pas de se laisser faire, mais réagir comme ça, c'est simplement de dénoncer le mal, de mettre le mal en lumière. Ce que tu fais, c'est mauvais, mais je vais aller avec toi, puis je vais y aller franchement. Juste histoire que tu comprennes que ce n'est pas très cool ce que tu fais. Alors là, on peut ressortir 2 points. Le mal est mal. Il ne s'agit pas de le justifier. Mais il s'agit de le dénoncer. Jésus ne nous apprend pas à être gentils. Il nous apprend à nous rebeller. Il nous apprend à retourner les choses pour mettre en lumière la méchanceté des autres. Attention, quand je dis rebeller, il nous apprend à nous rebeller contre le mal, pas contre la personne. Dans ce discours, il invite à mettre le mal en lumière. Marcher à la suite de Jésus, c'est discerner et dénoncer le mal sans chercher à venger l'agresseur. Par la vengeance, j'entretiens une spirale de la violence. Et finalement, on donne une bonne raison au mal d'exister. Si je réagis encore plus fort, c'est une spirale et l'autre va réagir encore plus fort. Et à ce moment-là, le mal a sa pleine légitimité. Si vous voulez des exemples, ouvrez l'application RTS, certainement le premier sujet d'actualité, et on y est. S'il y a beaucoup de guerres dans le monde, c'est bien parce qu'il y a cette spirale de la vengeance. Et le deuxième point, c'est quand on agit comme ça, c'est qu'on offre à l'autre personne une possibilité de changer. Quand on met le mal en lumière, on va confronter l'autre à son acte. en lui tendant l'autre joue, en lui donnant notre manteau ou en faisant un kilomètre de plus, on lui montre le disciple que nous sommes. Nous lui montrons qu'on voit clair dans son jeu. Ce qu'il fait, c'est mal, c'est de la méchanceté. Mais nous lui offrons aussi la possibilité de changer, de réorienter son attitude. En me tendant la joue gauche, Thierry m'a dit « Mais si tu veux frapper, vas-y, mais fais-le au moins à ton égal. » Et moi, j'ai le choix. Soit je poursuis, soit je me dis « Attends, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre là. » Et là, c'est peut-être le plus compliqué. Offrir à l'agresseur une voie de changement, une voie de guérison, de restauration et peut-être même de réconciliation. Telle est la justice selon Jésus. Quand nous portons le sac à dos, c'est ça que nous avons avec nous. J'ai des verres d'eau un peu partout. Je crois que j'en ai 3 ce matin. Cette justice de Jésus n'est pas facile à mettre en œuvre dans nos vies. Mais c'est pourtant cette justice que Jésus est venu accomplir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Telle est la justice de Jésus. Dans notre monde, il existe des justices arrangeantes. On essaye d'arranger tout le monde, qui profitent souvent d'ailleurs à ceux qui les exercent. Il existe aussi des justices bibliques mais incomplètes, comme la loi du talion. Et Jésus demande à ses disciples de viser un petit peu plus haut. De pratiquer dès maintenant la justice qu'il veut instaurer. Une justice qui prend en compte le mal et le dénonce, mais qui n'en vise pas moins la relation, la restauration et la réconciliation. Pour nous, disciples de Jésus, si on marche à sa suite, il s'agit d'adopter des comportements qui vont pouvoir casser cette spirale de violence. Il s'agit pour nous d'interpeller les personnes qui commettent ces violences. C'est là tout notre enjeu. Casser cette spirale en offrant une voie de rédemption. Dès qu'on maîtrisera ça, on pourra s'attaquer au texte suivant que je vais lire sans commenter. Jésus ensuite dit au verset 43, Matthieu 5, 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » C'est engageant. Hein? Je crois que le point de départ pour commencer à entrer dans cet amour des ennemis, c'est vraiment de saisir déjà ce tendre l'autre joue. Voir clair dans le jeu de l'autre, dénoncer le mal et ne pas chercher à alimenter cette spirale de la violence. Je crois que c'est aussi un chemin qui est possible. Seulement si on marche à la suite de Jésus. Jésus, lui, il a accompli tout cela. Le chemin qui mène à la croix est un chemin où il a dû tendre l'autre joue, où il a dû dénoncer le mal, mettre ses opposants en face de leurs actions. Et il a aussi appris à aimer ses ennemis. Et ça l'a conduit à la croix, à la mort sur la croix, pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Alors quand on parle de justice et de vengeance, avec quel bagage est-ce que vous suivez Jésus ? Je vais reprendre le petit sac de Joël. Est-ce que c'est avec un sac à dos pour cette rando bivouac ? Ou est-ce qu'on suit Jésus avec notre valise et tout ce qu'elle contient ? C'est facile de suivre Jésus puis de dire bah, « En fait, Seigneur, je te suis avec un sac à dos. » Dans des domaines où on n'a pas de difficultés dans nos vies, « Oui, Seigneur, je te suis avec un sac à dos. » Mais quand on parle spécifiquement de justice et de vengeance, pour ma part, j'ai souvent tendance à prendre une valise avec. Dans ce domaine-là, Jésus, laisse-moi ma valise bien lourde parce que ça me fait tellement du bien d'avoir tout ça avec moi. Parce que tout ce qu'il y a là, ça me permet d'être propre juge de la situation. C'est tellement facile. Quand on me fait du tort, c'est simple. Dans ma valise, j'ai tout ce qu'il faut pour résoudre le problème selon moi. Mais Jésus me demande d'abandonner cette valise et de prendre ce sac à dos avec ce texte du Sermon sur la montagne qui dit de tendre l'autre joue. Marcher sur le chemin à la suite de Jésus, c'est inévitablement le suivre à la croix. À la croix, nous réalisons que Jésus a dépassé notre monde et ses logiques. Comme si tout s'inversait. À la croix, Jésus a obtenu la victoire sur le mal. À la croix, nous sommes assurés que Jésus va faire justice parfaitement. Peut-être pas ici, dans ce monde, mais un jour, il fera justice parfaitement. Ce texte n'est pas question de gommer les injustices. La justice sera établie de manière parfaite et équitable. À la croix, nous pouvons aussi trouver la force de tendre l'autre joue, de suivre cette logique qui paraît complètement folle. Parce que Jésus l'a fait pour nous. Il a fait tout cela. Il a marché sur ce chemin à la croix pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Alors dans notre marche avec Jésus, avec quel bagage est-ce qu'on le suit ? Je vous laisse quelques secondes de réflexion.